Radio Orient présente Pluriel.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne, l'invité de Pluriel et candidat à l'élection présidentielle de 2027, président de Debout la France, ex-député de l'Essonne. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour monsieur.
Cette semaine a été marquée par de multiples rebondissements au Moyen-Orient, avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, une trêve d'abord décrétée par Donald Trump. Est-ce que vous saluez l'action du président des États-Unis ?
Écoutez, c'est ambivalent. Je pense que les frappes des États-Unis auraient dû être faites au terme de la négociation sur le nucléaire si celle-ci n'avait pas abouti. Je n'ai pas compris pourquoi Donald Trump s'est précipité à faire ses frappes alors qu'il était engagé dans une négociation qui n'était pas terminée. Moi, je veux être très clair. Je n'ai aucune proximité, bien évidemment, avec le régime des Mollahs. Cet État a semé le chaos au Moyen-Orient depuis des années, attaque les libertés, exécute les opposants au régime. C'est un régime détestable. Mais à partir du moment où le président américain avait entamé des négociations, je n'ai pas compris pourquoi il a accéléré les frappes. Premier point. Deuxième point. Et aujourd'hui, heureusement, il a contrebalancé cette première action par une nouvelle action qui est un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu, il est le bienvenu. Et je me réjouis qu'il ait tapé du poing sur la table pour que Israël cesse ses bombardements. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il est encore possible d'avoir la confiance pour avoir une négociation sur le nucléaire iranien et le respect du traité de non-prolifération.
Sachant que le Parlement iranien a voté la suspension de sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est un élément qui vous inquiète ?
Bien sûr, parce que c'est pourquoi d'ailleurs j'étais sceptique sur l'efficacité de ces frappes. Je pense qu'il fallait exploiter la négociation jusqu'au terme. Ensuite, si l'Iran violait le TNP et qu'il fallait en tirer des conséquences, alors là, une action de respect de TNP aurait pu être menée, mais je pense que tout ça a été précipité. Et cela a été précipité pour répondre à une demande du Premier ministre israélien qui est dans une fuite en avant, très contestée, même en Israël, par l'ancien Premier ministre, M. Olmert. Et je pense que Benjamin Netanyahou est en train de mener Israël à sa ruine. Et moi, j'ai jamais changé de position. J'ai toujours la même, qui est une position gaullienne. Israël a le droit à l'existence et à la sécurité. Et il ne faut pas oublier que l'Iran n'a jamais reconnu Israël, à la différence d'autres États du Moyen-Orient. Mais les Palestiniens, l'Iran, les autres pays ont le droit aussi à l'existence. Et même si ce sont des régimes que je déteste, si on veut renverser tous les régimes qu'on déteste, il ne va pas en rester beaucoup dans le monde.
Donc vous ne souhaitez pas une chute du régime des Mollahs par la force ?
Le régime des Mollahs tombera par l'intérieur, par la force des Iraniens, pas par l'extérieur. Toute intervention ne peut que renforcer paradoxalement un sentiment patriotique qui va ressouder obligatoirement une partie de la population autour des Mollahs. Et d'ailleurs, on s'aperçoit aujourd'hui que les Mollahs sont de plus en plus durs à l'égard de leur peuple. Les exécutions se multiplient. Et donc, encore une fois, je sais que c'est pas facile à expliquer. Je sais qu'on est impopulaire en le disant. Mais ces interventions par la force sont souvent contre-productives. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Irak. Ça a été un drame. Ça ne veut pas dire qu'on est solidaire des régimes. Mais je pense que malheureusement, si c'était simple, ça saurait. Et que, autant je pense que le régime des Mollahs doit tomber et tombera un jour, parce que les Iraniens ne le supportent plus. C'est la réalité.
Alors la question, c'est qui pour lui succéder ?
Ils trouveront. Les Iraniens sont un grand peuple. C'est un grand peuple, l'Iran. C'est un peuple millénaire. Et les Iraniens sont tout à fait capables, par eux-mêmes, de trouver des successeurs. Je peux vous l'assurer. Donc, c'est aux Iraniens de trouver les moyens de renverser ce régime. Mais attention aux interventions extérieures qui seraient contre-productives. Mais ce discours de la raison est très difficile à exprimer aujourd'hui en France, car soit vous êtes Mélenchon qui a une vision excessive et démagogique et je trouve malsaine, et soit vous êtes à pardonner tout à Israël, alors que je pense que y a des choses qui sont excessives.
Vous déplorez, on l'entend, une vision binaire des choses de la part de certains responsables politiques sur la situation dans la bande de Gaza, Nicolas Dupont-Aignan. Justement, 56 000 morts, plus de 131 000 blessés depuis le 7 octobre 2023, depuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Des chiffres des autorités de Gaza, ils ne sont pas contestés par les organisations internationales. L'ONU déplore le ciblage délibéré des infrastructures civiles, la destruction généralisée et le refus de l'aide alimentaire. Après l'obtention justement d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, peut-on désormais espérer un arrêt des combats dans la bande de Gaza?
C'est vital, c'est fondamental, la famine menace, et je veux là aussi être très clair, autant il fallait réagir à cette barbarie du 7 octobre et éliminer les auteurs de cette barbarie. Et Israël avait le droit de se défendre, parce que si on avait eu ça en France, on se serait défendu. Donc moi, je n'accepte pas ce discours à charge contre Israël permanent. Mais en revanche, se venger du 7 octobre ne veut pas dire éliminer 2 millions de personnes qui vivent à Gaza. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème de Netanyahou, et que je ne confonds pas avec Israël, parce qu'il y a beaucoup de protestations en Israël, le problème de Netanyahou, c'est qu'il n'a jamais été capable dans l'histoire, depuis le début, d'avoir une solution politique après un conflit. Si vous n'avez pas une perspective politique après un conflit, le conflit ne peut que s'enliser et sans fin. Donc, la vraie question, c'est quelles sont les autorités palestiniennes avec lesquelles on peut négocier la création d'un État? C'est ça la question. Tant qu'on restera, dans le système binaire, soit vous êtes pro-israélien à fond, soit vous êtes pro-palestinien à fond, et si on ne trouve pas un chemin de paix entre les deux, on aura le chaos, la famine, la destruction de Gaza et à terme la destruction d'Israël.
Et quand Emmanuel Macron travaille à cette reconnaissance de l'État palestinien en organisant un sommet qui devait être coprésidé par l'Arabie Saoudite, un sommet onusien, il a été reporté à cause de la guerre entre l'Iran et Israël, c'est urgent justement de travailler pour une solution à deux États aujourd'hui?
Bien sûr. Mais Emmanuel Macron ne comprend plus sa politique parce qu'il a dit tout et le contraire de tout. Et je crois qu'il ne faut pas confondre. Attention, on n'a pas besoin d'une girouette au Moyen-Orient. Emmanuel Macron, c'est une girouette. C'est-à-dire qu'il est pro-Israël, pro-palestinien, mais c'est incompatible la manière dont il est pro-Israël à fond d'un côté, pro-palestinien à fond de l'autre. Et il ment à tout le monde.
Là, vous reprochez aux politiques d'être binaire, lui ne l'est pas. Ah justement, non, mais... il est cohérent dans ses positions.
Non. Il n'est pas du tout cohérent. Excusez-moi. Macron, il dit à Israël ce que veut entendre Israël et il dit aux Palestiniens ce qu'ils veulent entendre. Être cohérent, c'est présenter aux deux la même solution. Si vous écoutez Macron, il a d'abord proposé une grande coalition contre le Hamas. Après, il a changé d'avis.
Et c'était justement l'objectif de ce sommet unisien, proposer aux deux parties la bonne solution.
Emmanuel Macron a changé d'avis comme de chemise. Et la France n'a pas besoin d'attendre tout le monde si elle voulait reconnaître un État palestinien, d'ailleurs, entre nous. Donc, le problème de Macron, c'est qu'on ne sait plus où il habite.
L'actualité en France, Nicolas Dupont-Aignan, le Rassemblement national ne votera pas, a priori, la censure contre le gouvernement Bayrou, motion de censure déposée mardi dernier par le Parti socialiste à cause de l'échec du conclave sur les retraites. Pourquoi est-ce que vous reprochez au RN de ne pas s'associer à la gauche pour faire tomber le gouvernement Bayrou?
Parce que le gouvernement Bayrou fait du mal à la France tous les jours, que le RN passe sa vie à critiquer le gouvernement Bayrou, et que là, il y a l'occasion inespérée de s'en débarrasser. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont voté la censure de Barnier et ils ne votent pas la censure de Bayrou. La question n'est pas de savoir avec qui on vote une censure, on vote toujours une censure avec des opposants politiques, puisqu'il faut une majorité. Donc c'est un faux prétexte. Donc ça veut dire très clairement, ne nous trompons pas de mots, que le Rassemblement National a décidé d'aider François Bayrou. Et en fait, le Rassemblement National est en train de faire ce que les LR faisaient avec les gouvernements Borne et Attal. Donc je ne comprends pas, je dis franchement. Et j'espère un sursaut. Voilà, j'espère que les députés du Rassemblement National et de l'UDR de Ciotti auront un sursaut et comprendront que les Français n'en peuvent plus de cette politique.
Et cela permet aussi d'éviter une crise politique, une énième crise politique.
Mais la crise politique, ça veut dire quoi une crise politique? La crise politique, on vit dedans au quotidien. La crise politique, c'est un gouvernement qui n'agit pas, qui fait souffrir les Français. qui ne résout pas les problèmes de sécurité, qui ne résout pas les problèmes de pouvoir d'achat, qui a trompé les gens sur les retraites, qui a une politique internationale atlantiste absolument scandaleuse, qui dépense des milliards pour l'Ukraine en pure perte, qui verse de l'argent à l'Union européenne qui est en train de nous tuer, qui va se prosterner à l'OTAN devant Trump. Donc la crise politique, elle est tous les matins. Les Français, ils la subissent dans leur pouvoir d'achat, dans le prix de l'électricité.
Alors le pouvoir d'achat, justement, Nicolas Dupont-Aignan, l'Assemblée nationale a voté une loi pour supprimer les zones à faible émission. Cette loi doit encore être validée par le Conseil constitutionnel. C'est une première victoire pour vous.
Oui, c'est une belle victoire. Et là, le Rassemblement national a été clair. Ça prouve que moi je ne suis pas là pour critiquer le Rassemblement national. Moi, j'essaye d'être cohérent. Je crois être l'un des seuls hommes politiques, enfin un des rares, à jamais changer d'avis comme de chemise et à dire les choses dans la franchise. Donc, moi, j'ai toujours été hostile aux ZFE qui sont une ségrégation sociale abominable à l'égard de ceux qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, alors même que c'est les centrales à charbon polonaises et allemandes qui nous font la pollution de l'air en France et pas du tout les voitures. Donc, les paquebots de touristes à Marseille font plus de pollution que des millions de voitures. Donc, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Voilà. Moi, j'ai toujours été hostile à cette écologie punitive. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour une écologie incitative. Voilà. Bon, ben moi, j'ai applaudi quand le Rassemblement national, l'UDR, les LR ont enfin été clairs. Ce qu'attendent les Français, monsieur, c'est des hommes politiques qui soient clairs. On sait ce qu'ils proposent. Parce que comment on peut voter pour des gens s'ils changent d'avis comme de chemise ?
Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle de 2027. Est-ce que vous souhaitez une union des droites nationales juste avant cette présidentielle ?
Non, l'union des droites, ça ne veut rien dire. Moi, je suis pour l'union des Français patriotes, des amoureux de la France. Donc, il y a deux tours de scrutin. Il y a un premier tour où les Français ont quand même le choix de voter pour les personnalités de leur préférence, avec des programmes. Si je n'étais pas candidat au premier tour, il n'y aurait pas de candidat indépendantiste en France, il n'y aurait pas de candidat pour une politique étrangère gaullienne, il n'y aurait pas de candidat souverainiste. Voilà, et ben, je trouverais ça dommage. Donc j'y vais parce que si j'y vais pas, personne n'ira.
Il n'y a pas d'autres candidats souverainistes ? Vous êtes le seul souverainiste ?
Il n'y a pas d'autres candidats capables d'avoir les 500 signatures. Monsieur Philippot, qui fait un gros travail et que j'admire, Monsieur Asselineau, qui parfois dit des choses justes, n'ont pas eu leurs 500 signatures en 2022, ils ne sont pas capables de les avoir, j'y peux rien. Moi, je les ai eues et j'ai un grand réseau de maires qui me soutient. J'ai la chance de pouvoir être candidat. Il y a un dernier sondage qui est sorti ce matin, 18% des Français sont prêts à voter pour moi, 18%. Je suis le seul souverainiste qui peut rassembler des Français.
Marine Le Pen, avec qui vous étiez associé dans le passé, et Jordan Bardella, si cela devait être lui, il n'est pas souverainiste ?
Ah non, ils ont évolué et ils ne défendent plus une rupture claire avec l'Union européenne comme je la défends. Voilà, donc c'est leur choix d'ailleurs, moi je le respecte leur choix. Ils ont décidé de s'accommoder de l'Union européenne pour sans doute convaincre davantage de Français de gagner. C'est leur choix, mais moi, je pense que les Français qui veulent rompre avec l'Union européenne, qui veulent rompre avec l'OTAN, ont le droit d'avoir un candidat quand même.
Bien, merci Nicolas Dupont-Aignan. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2027. Vous présidez le mouvement Debout la France et vous êtes ex-député de l'Essonne et élu dans la ville de Hyères, dans l'Essonne. Merci à vous.
Merci à vous.
Et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
Radio Orient présente Pluriel.